Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Essai.
Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième but
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Chute de Mélenchon, juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Chabot est parti. L'Express, le TGV est parti. Chabot, 9,58. Record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh bien, défoncez-vous. Bon retour de fête, Pascal. Bonjour, Gonzalo.
Ça va.
Bonjour, Bernardo.
I'm back, salut.
Bonjour Damienski.
Présent, bonjour.
Eh oui, vous êtes bien au Café des Sports. Non, elle fait sa berdardette. Voilà. Oui, on est de retour. On était là la semaine dernière, mais à l'heure, efficacement, quasiment tous présents.
Mais en version allégée.
Bah, pas spécialement. Ouais, il manque Raoul aujourd'hui.
C'est donc allégé.
Non, par rapport à la semaine passée. Puisque la semaine passée, on peut revenir, vous avez fait trois quarts d'heure d'émission.
Eh oui. Bah, on était que deux. et puis je travaille un peu. Voilà.
Et M. Raoul est venu sur la fin quand même.
Oui. Je sais pas. Tout de suite, on part en musique et puis on retrouvera Gonzalo pour sa chronique locale. L'ABCDR. Oh, ça sent la fin de l'année. Hein. Il y a eu de la NBA avec les phases finales et puis bah, du rugby et plein d'autres choses. L'actualité sportive a dû être riche en ce week-end. On y reviendra. Allez, feu. Allez, c'était quoi, monsieur Gonzalo, s'il vous plaît?
C'était Bruno, The Tone Called Malice. Non, les jams.
Alors, qui a été voir du sport ce week-end? Sûrement Bernardo.
Ah, moi, j'en ai vu la semaine dernière, ouais. Je suis allé voir le VB mercredi et je suis allé voir le basket samedi soir.
Oula, on va y revenir tout à l'heure, je pense, plus largement. Damien Ski, sport ou pas sport ce week-end?
À la capitale.
Oula.
Oh, samedi soir.
Le PSG? L'OM? L'OM, pardon.
La finale de la Coupe de la Ligue.
Ah, et ça a fait quoi?
Victoire de l'Olympique de Marseille, 1-0, but de Taïwo, dans le temps réglementaire.
Moi, je sais ce qu'il a fait, Taïwo, à la fin.
Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, allez, balance.
Il a chanté une petite chanson contre le PSG, alors que ça n'avait rien à voir, là, ce jour-là.
Oui, c'est vrai que c'était déplacé.
Ah, c'est complètement... Ouais,
c'est déplacé, ouais, ouais.
C'est complètement foot.
Oui.
Voilà. ça évitera de dire une grossièreté, mais ça, tout est dit là-dedans.
Et on s'en fout un peu.
Ouais, voilà. Moi, j'ai pas vu grand-chose, à part du kitesurf vite fait. Ça se limite à ça, le sport du week-end. Ah si, j'ai fait du vélo, 4 heures. J'ai un peu mal aux fesses.
Combien de kilomètres? 7.
8,5, parce que beaucoup de pauses. Et vous, mon cher? Bon, on le saura bientôt.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà qui est dit. Ça te choque pas, Bernadette? Non. Non, tout va bien, tout va bien. L'entraînement hivernal régulier est en train de payer. Ah, le travail de fond, ça marche toujours. Une terrasse vendredi soir jusqu'à pas d'heure. Un jardin tout samedi après-midi.
On regarde le fil rouge des 15 derniers jours.
Et même pas mal. Bah, on a un temps estival en avril, alors faut en profiter. Hein. On ne sait pas ce qu'on aura cet été pour de vrai. Alors. On vous le dit, le haut niveau, c'est la permanence dans la performance. Moi, je me souviens, je me rappelle d'un Knut qui certes était parti avec le record, mais il avait éprouvé les plus vives difficultés pour entrer dans son camp de base. Ah là 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 là, le Viking, ça brûle tout, ça brûle tout. Mais je m'égare. Je m'égare. Avec des amis, ils ont passé samedi soir devant un ordinateur. Ouais. Même ma petite Lily était dans le coup et à chaque nouvelle pause et dose de nicotine et de goudron, elle reprenait le stylo. « Dis papa, je marque tous les points. » Bon bah là, je les ai marqués parce qu'Evreux a égalisé, puis est passé devant. Hein. C'est important. 8 ans. Et elle a tout compris au journalisme sportif. À 6 ans, elle m'avait dicté le chapeau d'un article. Bon, bah au début, c'était pas bien. Hein. Mais quand l'équipe de Tonton Manu a mieux joué, bah les autres, elles étaient plus bonnes. Hein. Et c'était Evreux qui était vraiment le plus fort. C'était en mai 2009. Et déjà, le VB affrontait Vendeuvre-Nancy sur une série. Et déjà, il était possible de suivre la rencontre en Lorraine depuis son ordinateur et le site de la ville de Vendeuvre. Bon, il s'agit d'une sorte de réalisation à l'ancienne, hein, type 1953, c'est-à-dire avec une caméra fixe. Et un ancien entraîneur qui commente. L'image est en couleur, par contre. Ouais. Donc, des moyens techniques rudimentaires, mais on s'en fout. Hein. Alors, ce type de retransmission permet toutefois de vivre l'événement. Certes, sans ressentir pleinement l'émotion, d'entendre les bruits, de fixer les visages, de sentir aussi les détentes, le bruit du ballon, comment ça cogne. Mais bon, c'est qu'une carte postale, mais c'est tout de même pas si mal. On peut prendre du plaisir, comme dans le premier set. S'inquiéter, comme dans le deuxième et le troisième. S'arracher les cheveux dans le quatrième, je rappelle, 25-12.
Ouais, ça sentait la fessée sur celui-ci, ça sentait pas bon pour la suite.
Et carrément partir fumer sa clope, porte ouverte, le son juste un petit peu plus fort dans le tie-break, et Ellie de noter les derniers points. Justement, après le dernier, elle ajoutait « Bon bah, on n'a pas très bien joué, hein, mais l'important c'était de gagner. » Et puis surtout là, quand même, c'était difficile parce que Evreux, il jouait drôlement loin. T'as raison, ma petite Lily.
C'est plus loin que le Canada, c'est vrai.
T'as raison, ma petite Lily, comme toujours. Qu'est-ce qu'elle... À mon avis, elle fera quelque chose de bien, cette petite fille. Basket! Qu'est-ce que j'ai, là?
Aïe.
LM 69, Nanterre.
Joli.
93.
Ah, moins bon.
Moi, je soupçonne le 69 un peu volontaire.
Ouais, mais ça, je peux pas l'expliquer à ma fille.
Non.
Elle le comprendra plus tard, après avoir été fille au cœur au Pays de Galles.
Ta gueule, toi.
C'est pour dans 3 ans.
Non mais ça va pas, non? Nanterre, taille patron, je lis le coin-coin régional. Bon, il y a Drake Reed et les autres, hein, c'est ça? Enfin, moi,
c'est un peu ça, oui. Même carrément.
Tu y étais?
Oui.
Alors
bah voilà. On a vu un club qui va être en Pro A l'année prochaine, qui a joué comme un...
Sereinement?
Sereinement. Ils étaient plus forts, ça. C'est un peu la même qu'à l'aller, hein. J'étais allé faire le déplacement. Ça repartait pareil. Exactement le même joueur, quoi. Ils avaient l'envie, ils sont meilleurs, point.
Donc une nouvelle fois là sur cette série de matchs un peu difficile, on se rend compte qu'Evreux quand même fait plus de balles perdues que de passes décisives à nouveau là.
C'est deuxième fois de suite hein, que tu relèves cette stat.
Bah, c'est une stat marquante en basket. Hein. C'est-à-dire que quand tu donnes plus de ballons à l'adversaire que tu fais de bonnes passes pour marquer un panier, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas très bien en attaque ou alors que la défense adverse s'impose. Donc il y avait un très bon papier aussi de Madame Lenoir dans l'édition du lundi. Qui titrait Où sont les guerriers ? Est-ce que tu approuves ?
Il y a aussi ça, ouais. Ils n'avaient pas l'envie, ce que je te disais. Hein. Le Nanterre en face, ils avaient envie. Et chez nous, l'envie, moi, je l'ai trouvé que chez Reed. Les autres, moyennement.
Ouais. Reed et les autres.
Et d'ailleurs, Rémi Vallin disait à l'issue du match que bah, pour les prochains matchs, il allait faire jouer ceux qui ont envie de jouer. S'il y en a qui ont envie de faire du graphe, et bah, qu'ils continuent à faire du graphe, quoi. Je sais pas si.
Ouais, du grave,
j'avais du graphe. Non, il y en a un qui graphe, qui prépare une expo.
Ah oui, celui qui fait. On va relever ça.
Voilà. Ah,
c'est un américain.
Ouais, un américain.
Donc censé apporter une plus-value.
De toute façon, les graffeurs, c'est tous les mêmes.
Ouais.
Tous des feignants, des ramiers.
À fumer de la drogue.
Et écouter de la musique qui n'est pas de la musique avec sans instrument.
Non, on rigole.
Bon, allez, Damien, on rigole. C'était pour
Calvin Watson.
Oui, c'est lui.
On va relever sa ligne de stats quand même parce qu'elle est marquante pour un Américain. Donc un point, 0 sur 4 au tir. Donc c'est-à-dire que c'est même pas tellement impliqué. On peut ne pas avoir de réussite offensive, c'est-à-dire qu'on peut faire 0 sur 12. C'est-à-dire qu'on s'implique un petit peu dans sa mission offensive. 0 sur 4, c'est-à-dire qu'on est un peu en vacances.
Je me permets, 0 sur 12, il y a un problème quand même.
Non mais attends, 0 sur 12, c'est-à-dire que t'es un shooter et tu dis le prochain va rentrer.
J'ai connu aussi, Gonzalo, on a connu des rencontres aussi où les mecs ils s'en fichaient et jetaient la balle. Quoi. Donc, mais là je vois très bien ce que tu sous-entends.
Un shooter, ça shoot, c'est au coach de sortir.
Attends, 4 shoots en 18 minutes, c'est quand même un mec qui a été souvent meilleur éval. Il a été au moins 5 ou 6 fois MVP depuis le début de la saison. Voilà, c'est surprenant.
2 rebonds et une passe. Bon, c'est quand même pas gégène. Hein. Enfin, tout le monde n'est pas terrible, hein, donc on va pas épiloguer. Evreux est 5e, c'est la première fois de la saison que la LM descend aussi loin.
Ça aurait pu être bien pire, je crois, hein, si les autres clubs avaient pas. Vu les résultats du week-end, on s'en sort pas mal. Hein, aurait pu être bien pire.
Au final, dans les 8, hein, c'est ça pour
Il faut encore une victoire sur les matchs à venir. Reste Aix, Boulogne et Lille à la maison. Donc voilà.
On va faire une petite pause de l'autre côté de la scène pour évoquer le sport. Parce que moi, il y a une phrase qui m'a interpellé dans le journal. J'ai envie de la faire partager. Donc, Antibes 75, SPO Rouen 71. Titre, Rouen n'y arrive plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fin. Alors, je vais vous lire. Devon Gill termine la soirée avec de bonnes statistiques. Mais son manque de réussite a coûté cher au sport. Jason Siggers fait encore moins bien. Sa copie, on s'en fout. Plus loin, le vétéran Karim Reed a lui aussi trop peu influé sur ce match. Alors écoutez bien la chute, moi ça me... Ces trois hommes-là ont intérêt à se réveiller s'ils veulent espérer accompagner Rouen en proie la saison prochaine.
Ah parce qu'ils croient encore à la proie.
Alors, c'est le journaliste ex-rouennais exilé désormais sur la... Du côté d'Antibes, mais moi je regarde le classement, je tourne la page là. ça fait amateur, je sais bien qu'il y a une émission professionnelle, on l'a vu dans le journal de ce matin, je sais pas si vous avez lu le journal ce matin. Il parle de Zikavrak avec un très bon article.
Très bien.
Moi le SP Rouen, ils sont 3e, hein, donc hors accession.
Ouais.
Bah voilà.
Moi je les vois pas.
Je les vois pas aller au bout des playoffs. C'est pas une équipe qui paraît présenter de la solidarité, de l'abnégation, les valeurs d'équipe. Tout simplement.
Exactement. Alors, volleyball, mercredi dernier.
Ah, moi, c'est le match que j'ai le plus apprécié à regarder là.
De la saison ?
De la saison, de ceux que j'ai vus, même de ceux que j'ai vus depuis le début.
T'étais là le soir de la neige ?
Non.
Le soir des 50 cm de neige ?
Non.
C'était contre Béziers, ce qui sera peut-être intéressant pour la suite.
Pour la suite, ouais.
Affaire à suivre.
Donc, la semaine passée, 3-1 pour Evreux.
Et beau match, ouais. Moi, ça m'a plu.
D'ailleurs, je lâche un message aux dirigeants de... Je lâche un message aux dirigeants de l'EVB. Je veux bien en être à Béziers. Je crois que l'entraîneur sait accueillir.
Je suis partant. Donc, à Evreux, c'était 3-1. À l'extérieur, Vendôme-Nancy 2, Evreux 3. Qualification directe, donc, en deux matchs pour la finale. Pour la cinquième place, on rappelle la cinquième place est qualificatif pour l'Europe. Et là, ils retrouveront Béziers. Donc Béziers, un peu l'équipe surprise. Équipe qui avait collé une tannée à Évreux en dernier match de championnat. Un 3-0 avec un Fouché
remonté.
Bougon est remonté. Et surtout Béziers qui a réussi l'exploit de coller deux défaites à Calais, qui était un peu l'équipe épouvantail, qui a longtemps lutté pour la quatrième place et qui se fait sortir, je pense que du côté du Nord.
Ouais, mais
on va voir les miquettes. Hein.
C'est peut-être. Alors, on va peut-être retrouver là des faits d'entraîneur et machin. Quand tu batailles toute une saison pour obtenir une bonne place, à savoir la quatrième pour rentrer dans le dernier carré, et que tu la rates au dernier moment, bah, le ressort se casse. Tu as tiré physiquement sur tes joueuses tout du long et tu n'as pas pu préparer ces playoffs et cette finale qui se prépare d'une autre manière quand tu es sûr de ne pas être dans les quatre. Quand tu es un peu lâché, tu peux travailler différemment physiquement pour avoir un nouveau pic de forme sur la période là, qui va arriver dans une petite semaine. Donc peut-être qu'elles ont payé la débauche d'énergie sur toute la fin de saison régulière.
Donc Évreux récupère l'avantage du terrain sur Béziers. Alors est-ce que c'est vraiment un avantage pas certain, puisqu'Évreux a gagné à Nancy et Béziers a gagné à Calais? Voilà, affaire à suivre samedi prochain, le 30, 7 à Béziers, 7 et éventuellement 8 à Évreux, Gymnase Canada, horaires normaux le 7.
Samedi 7, dimanche 8.
Dimanche 8. Ouais. Le 7, 18h30. Et le dimanche, je crois que ça, si il y a lieu, 17h, je crois. Football national. Mais alors, moi, j'avais que le coin-coin régional, mais comme vous savez, le coin-coin régional fait grève de la nationale, en tout du moins nationale dans l'heure. Donc, Passy 1, New York 0, et 16e.
Mais c'est loin de la.
Il y a combien de descentes?
3 ou 2, je sais plus, mais non. Ils sont plus dedans.
Non, c'est 5, je crois.
5.
Mais là, ils sont plus dedans.
Ils sont plus dedans. 16e, donc il y a des ex-aequo alors.
Ça me fait rigoler parce que j'ai vu le coin-coin local où il y a beaucoup de photos de ce match. On a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, quoi. Ils ont gagné un match et ils sortent de la zone de relégation. Il y a le champagne dans les vestiaires, ils ont gagné un match de foot, quoi.
Ouais, mais
ils sont avant-dernier, ou ils sont juste pas relégables.
Voilà, mais ça faisait quand même
bah oui, je sais bien,
3 mais... mois qu'ils étaient dans le rouge. Bon, après. Hein. Pas de CFA2, je crois.
Non, reprise ce dimanche.
Pas de hand non plus. Et pas de rugby non plus.
On attend le tirage au sort. Je peux déjà dire l'adversaire de l'équipe senior en quart de finale du Grand Ouest.
C'est quoi, c'est la réserve, hein?
Non, l'équipe première.
Ah, fait ça?
Ouais, quart de finale du Grand Ouest. Orléans-la-Source à Chartres. voilà, passionnant.
Orléans-la-Source à Chartres.
Voilà, à Orléans, il y a deux clubs. Il y a le RC Orléans qui évolue en Fédéral 1 et le RC La Source. Donc, on joue La Source qui était dans la poule avec Pontaud de Mer. Voilà, c'est la Coupe Banga de l'année dernière. Et l'équipe réserve, par contre, en 32e de finale du championnat de France. Adversaire non connu à 7h. On attend avec
impatience. C'est dimanche prochain?
Dimanche là, dimanche qui arrive.
Il n'y a pas de... Ça, c'est le rugby.
Non, mais la fédé était fermée samedi, dimanche, lundi, donc ils n'ont pas eu le temps de travailler. Normalement, ouais. les dénominations tombent le lundi après-midi, donc elles vont tomber cet après-midi.
Des quoi?
Les nominations. Les dénominations, j'ai dit. Ouais. Allez, c'est tout, je crois.
Moi, pour moi, c'est bon.
Voilà, un mot à ajouter, Damielski?
Non, on va pas épiloguer sur la LM Basket, je suis moi forcément déçu, puisque j'ai cru à une possibilité, pas forcément au tableau final de la saison régulière, mais potentiellement en play-off. Et en fait, on s'en éloigne. Et surtout, même si on les fait, il faudrait vraiment remettre l'accélérateur comme on a pu le faire à un moment donné, ou échanger beaucoup de choses pour que ça puisse être une potentielle montée. Et ça me fait suer parce que, comme je le lis, je l'entends, on est tout près depuis de nombreuses années et on reste en Pro B. Alors, ouais, on est les champions de la Pro B, on est les champions dans
la durée. Attends, on est les champions de quoi?
Non, mais dans la durée, ça fait une vingtaine d'années qu'on est en Pro B, on est un petit peu monté en Pro A. C'est quand même dommage qu'on fasse pas l'ascenseur.
T'as oublié qu'il y a 3-4 ans, on a failli descendre quand même et que ça s'est joué à 3 ou 4 journées près. Voilà, on a eu terme à un moment donné.
À la dernière, je crois.
Ouais.
Mercredi dernier, j'étais assis pas très loin de l'ancien président de la LM Basket, le président qui avait passé le pli entre l'amateurisme marron et le vrai professionnalisme. Il me disait, de toute façon, Évreux, il n'y a pas assez d'argent. Le coach fait un pari sur Derrickin. Quand ça rigole, ça donne une bonne saison jusqu'à janvier. Après, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Derrickin? Ça peut être aléatoire. Et voilà. L'année prochaine, Paris peut rater d'entrée de jeu. Dit voilà. Avec le 8 ou 10e budget, si tu veux exister, faut aller chercher un mec en Islande, un autre au Botswana, et faire un pari. Tu jettes une pièce en l'air. Cette année, ça a marché pendant 4-5 mois, et c'est pas si mal.
Puisqu'on risque quand même de perdre peut-être un ou deux solides joueurs français de l'effectif.
Mais avec le 10e budget, que veux-tu faire ?
Tout à fait.
Tu peux pas les retenir plus longtemps à un moment.
Au minimum, voilà. T'as 24 équipes, c'est-à-dire 14 de Pro A et 10 devant toi qui peuvent l'acheter, et plus toute l'Europe. Voilà.
Allez, on clôt cette page locale. Musique, Gonzalo, s'il vous plaît. It was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much to mistrust, love gone behind. In between, what I found is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It isn't like you.
Sébastien. Non, comment ça s'appelle ?
Saint-Jean-de-Morsan.
Saint-Jean-de-Morsan.
Allez,
un texto, on est parti après.
C'est parti.
Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Parle, je t'écoute.
Non, 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 c'est pas ça, ça c'est pour la semaine prochaine. On est co-Y.
Vous l'avez réclamé... Avec cri et fracas la semaine dernière, ouais, le voici de retour.
J'ai vu ça sur le chat. Là.
C'est toi qui envoyais les messages.
Ah, moi je me réclame pas. Hein. Bon, allez, on est arrivé au Y. On va commencer avec Dimitri Yachvili.
Oh, tiens.
Oh.
Voilà. Hey, j'ai pas fait de rugbyman sur la saison.
C'est vrai.
Explosion de Chayat.
Né le 19 septembre 80, donc joueur international de rugby.
Pardon.
Je le précise. Son père Michel d'ailleurs était lui aussi rugbyman. De toute façon, ils ont tous été rugbyman dans la famille, les frères, le père. Le père a été sélectionné 15 fois en équipe de France et il a remporté une fois le Grand Chelem en 1968.
Mais pas au même poste. Il jouait à l'honneur.
C'est ça. Il a un frère Grégoire qui joue avec l'équipe nationale de Géorgie. Et il y a un plus jeune frère, Charles-Édouard, qui joue aussi au rugby. Dimitri a pratiqué le foot avec les jeunes de l'OGC Nice avant de se mettre au rugby. Ensuite, il a joué au PUC, à Gloucester, et depuis 2002, je crois, il est parti au Biarritz Olympique.
Il y restait même.
Il y est encore. Il possède une bonne passe et un bon jeu au pied. D'ailleurs, il s'était entraîné avec Jean-Michel Larquet.
Toujours.
Il s'entraîne encore
toujours,
avec Jean-Michel Larquet.
C'est toujours son consultant.
Tout à fait.
Consultant technique.
Tout à fait.
D'ailleurs, il a établi un record le 11 juin 2005.
Non.
Si.
Non.
Record du nombre de poids au pied.
Ah, ça fait longtemps qu'on t'avait pas dit.
Arrête. Dans une finale en marquant 29 points, c'est-à-dire 9 pénalités et une transformation. Il remporte.
Comment tu dis?
Quoi?
29 points?
Ouais.
Tu répètes 29 points.
Tu répètes ton.
9 pénalités et une transformation.
Le compte est bon.
Ouais, c'est ce qui
est. Ça annonce la prochaine rubrique.
Il a sa première cape en équipe nationale le 23 novembre 2002. Il remplace Fabien Galthié à la fin du match contre le Canada et il obtient sa première cape en étant titulaire le 8 mars 2003. Il a fait 50 matchs avec l'équipe de France et a marqué 301 points. Il a remporté 4 tournois en 2004, 2006, 2007, 2010 avec deux grands chelems à la clé. En club, il est double champion de France 2005-2006 et avec eux, il a marqué 12 essais, 255 pénalités, 170.
Ça fait combien de points?
Je ne sais pas. 170 transformations et 6 drops.
Juste pour info, les 29 points de marqués en 2005, c'était la finale contre Agen où il y avait une très longue prolongation. Pour ceux qui se souviennent de ce match.
Alors, petit retour, pardon, tu parlais en équipe de France, 301 points, c'est ça?
20 points.
301 points.
Wilkinson et...
Et Carter, c'est 1000.
Carter, il se tire la bourre au-dessus de 1000, 1100.
Ça montre la régularité de ces joueurs en tant que buteurs et surtout la régularité de leur présence sur
forcément.
Surtout. Voilà, il y a un tel turnover en France sur des postes clés. On va prendre Ogara, qui est peut-être un peu moins marquant que Carter et Wilkinson pour les plus novices. C'est pareil, c'est 12 ans de présence en équipe d'Irlande tout le temps, remplaçant ou titulaire, mais il est toujours dans le groupe et il joue tout le temps, au moins 20 minutes.
C'est tout.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
Comment tu t'appelles?
Philippe.
Non, Bernardo.
Bon, allez, Yaoundé.
Ah oui.
Ouh.
Bah,
forcément.
Les lions indomptables.
Yannick.
Les lions.
Il y a des lions.
Yannick,
il y a des lions.
Là-bas, je crois.
Yannick. Il y a des lions. La capitale du Cameroun. Là-bas, il y a une équipe de baseball, les Yaoundé Tigers, qui ont été fondés en 1995. Ils sont 3 fois vainqueurs de la Coupe du Cameroun et 4 fois champions du Cameroun. Il y a pas mal de clubs de foot, je vais vous parler des principaux. Il y a le Canon Sportif de Yaoundé, qui est 10 fois champion du Cameroun, principalement dans les années 90. Parce que
Bojemila, non?
Non, c'est mince. Pour le club d'après. Donc 10 fois champion du Cameroun dans les années 90, parce que depuis, ils sont un peu moins performants. Et ils ont aussi remporté 11 fois la Coupe du Cameroun. Non, au sein de cette équipe, il y a eu Marc-Vivien Fauré, qui était décédé à Lyon sur le terrain en 2003.
Un solide milieu défensif.
Ouais. Non, le tonnerre de Yaoundé.
Canon, tonnerre.
Tonnerre, c'est pas le cheval de Bernardo? Non,
Zorro, mais si. Non, c'est Tornado.
Ah, Tornado, exact. Ah non, petit tonnerre, c'était.
C'est dans Yakari. Yakari, le Y. Donc, le tonnerre Yaoundé, ils sont 5 fois champions du Cameroun et ont remporté 5 fois la Coupe. Et donc, là, au sein de cette équipe, comme le disait Damienski, il y a eu Roger Mila, il y a eu Georges Weah et Rigobert Song.
Ah, quand même.
Également.
Ah, bon club.
Voilà. Après, il y a deux autres clubs, mais bon, c'était plus anecdotique.
Eh ben, merci pour Yaoundé. On n'a pas, souvent été en Afrique, je crois, non. Une fois à Johannesburg.
Ouais.
Et puis, voilà.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.
Alors là, ça va être super rapide.
On n'a pas fait non plus l'Asie, hein, le Vietnam, ping-pong, tout vrai. Ça, on n'en a pas parlé.
Ouais, j'ai regardé, il y avait plein de noms de sportifs chinois avec des noms et prénoms en Y, c'était un peu compliqué quand même. Donc ouais, l'équipe, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, les Yankees, équipe de baseball de New York, qui a remporté 40 fois la Ligue américaine.
Allez écouter l'émission du 22 mars pour plus d'informations. Je dis ça au hasard. Ouais.
En fait, j'ai une réclamation.
Oui.
Monsieur Tang réclame le podcast de la semaine passée.
Oula, je ne l'ai pas. Faut fouiner sur ça. Tang, je m'en occupe, promis.
J'ai reçu un texto très drôle d'ailleurs, je vous le lirai tout à l'heure. Il dit sur le classico. Je m'en vais voir le classico Nancy-Arles. Drôle, non?
Voilà, c'est tout.
Et la musique, ça sera quoi alors?
Comme je vous avais dit, pas de cri cette semaine, ce sera pour la semaine prochaine. Ce sera Yuxek.
Ah, bien.
Take my hand. Go ahead. Play my game. Keep your head.
Des petits soucis techniques. Qu'est-ce qui t'arrive? On va y arriver.
On va recommencer. On n'a plus de casque non plus. C'est le bazar aujourd'hui.
On commence tout?
Non. Ah, c'est bon, on est là. Vous êtes bien au Café des Sports, toujours. C'est mieux avec les micros et les casques qui fonctionnent.
C'est l'autre qui a tripoté ça.
Ouais, voilà. Pour les auditeurs de la FM, on revient. Mais vous ne nous entendez pas, c'est pas grave. Et pour ceux qui sont sur le net, principeactif.net, eh ben, c'est toujours OK. Je crois que c'est le moment, c'est l'heure.
Dominguez, record, il fait le passe. À 3 tonnes, Dominguez, il prend le ballon, il se retourne. Pied gauche, il tape. On est capable de le presser là. Merde. On se prend pour qui?
Et je suis content, pour l'instant, j'arrive à pas faire des remixes avec les jingles.
Ah oui, t'as bien scratché les semaines précédentes.
Oh, je sais pas.
Écoutez, comment tu fais ça, toi?
Bah, je sais pas, j'appuie sur un bouton, ça fait ça tout seul. C'est trop beau, hein.
C'est super.
Vous l'avez reconnu, c'est la page rugby. C'est la page, pour une fois, c'est le cas de le dire. J'ai copié sur Gonzalo, j'ai pris mes petites notes. Gonzalo, as-tu vu du rugby?
Très brièvement, j'ai regardé... Toulon, Perpignan.
Oui.
Un match à deux visages. Voilà, on discutera peut-être un peu plus tard, non?
On reviendra sur un score qui met les Perpignanais en fâcheuse posture.
Ah bon, c'est cuit même.
C'est pas cuit-cuit, mais pas loin. Cuit-cuit et le petit oiseau, oui, c'est ça? Allez, on revient au résultat. Donc justement, il y avait cette défaite, très large défaite, de l'USAP à Toulon, et puis également la défaite de Montpellier à Brive, 23-21, mauvaise défaite parce que les Montpelliérains vont avoir leur qualification entre leurs mains, mais pour cela ils vont devoir gagner contre l'Armada toulonnaise pour le dernier match, donc affaire à suivre, mais match très très compliqué. Les seuls qui sont tranquilles et contents, ce sont les Toulousains qui sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Eux, on peut le dire, c'est acquis. Les Toulousains qui ont très largement battu Bourgoin, bon, qui n'y est plus, mais qui, voilà, 33-0. Je ne sais pas s'il y a eu du turnover dans l'effectif catalan, toulousain ou pas.
Eux, ils ont joué avec Doussin à la mêlée encore.
Et Bézi.
Bézi est rentré en deuxième période. Ouais, c'était ce crêle-là. D'ailleurs, une belle charnière jeune et talentueuse. Hein. Et une nouvelle fois, le pack. Et puis derrière, repositionné en 13, Sosoni Bouka. Bien. Puis derrière, ça, Claire, il tue le match d'entrée. Hein, deux essais, dont un sur un exploit personnel. Ça infiltre tout seul. Pif, boum.
Après, autre résultat marquant, c'est les très larges victoires des Ciels et Blancs. Les Ciels et Blancs, à savoir le Racing et Bayonne, qui mettent 50 points à leurs adversaires respectifs. Voilà, avant-dernière journée, score fleuve. C'est un peu l'habitude en top 14, les équipes lâchent les rênes pour peut-être préparer d'autres échéances.
Certaines lâchent un petit peu, et puis les équipes qui ont besoin d'un essai supplémentaire, elles mettent le paquet quoi, pour aller chercher le point de bonus. Hein.
Voilà, tous les points vont être importants, on va voir le classement général tout à l'heure.
T'as parlé de Brive?
Et non, Brive, oui, j'ai dit qu'ils avaient qu'ils avaient gagné contre Montpellier, ce qui les replace vers le haut aussi du chapeau.
Alors... Ce qu'il faut remarquer, c'est que Montpellier a un parcours à l'hébroïcienne, type basket. C'est la première fois qu'ils sortent du top 6 ou top 8, et même 6, hein, puis là, mais, enfin, donc c'est très embêtant pour eux. Ils ont longtemps été dans les 2-3 premiers, et deux défaites consécutives, et puis voilà. Montpellier peut ne pas jouer les phases finales, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, Galtier est très mauvais perdant. Toujours en train de pleurnicher à la fin du match.
Hein. Galtier, même si j'apprécie l'entraîneur, il a toujours été un petit peu comme ça. En tant qu'entraîneur, moi en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, il a souvent été comme ça. L'autre résultat un peu, pas marquant, mais important pour le classement final, c'est la victoire du Castres Olympique de 3 petits points, 16, contre le Biarritz Olympique, 16-13. Ce qui replace les Castrés un peu plus haut, et les Biarrois sont toujours en course avec leur bonus défensif.
Castres, je reviens sur un petit événement un peu annexe hein, au rugby.
Ah, je pense que tu vas en venir à la citation de Chabal.
Alors voilà.
Ah, bah, d'abord, Chabal, en parler après.
Pardon, Chabal qui fait un essai de 70 mètres la semaine dernière, qui dépose l'ailier de Bayonne.
Le capé?
Non, c'est l'autre, que un sud-af. Il le dépose, bon bien, quand même sur 70 mètres, parce que lui, deux ou troisième ligne, pas mal. Là, il marque deux essais en force au ras de sa mêlée, bien. Et puis cette semaine, moi,
il sort son bouquin.
Voilà, autobiographie, quand t'as même pas fini de jouer, enfin, autobiographie à 35 ans, moi je trouve ça. Ça me désole un peu, quoi. Vous vous rendez compte, Michel Drucker. Michel Drucker.
J'ai arrêté d'écrire la mienne alors.
Michel Drucker aurait pu en faire 4 au moins d'autobiographie. Michel. Formidable. Et là, il s'attaque à un club, Castres, en disant que cette équipe est protégée par les arbitres. Bon.
Alors, il s'attaque à deux clubs. Son bouquin, il s'attaque au club où les présidents sont présidents de la Ligue. À savoir, à l'heure actuelle, il dit les Castres revolent, fait que les arbitres sont protègent son club, comme du temps de Blanco avec le Biarritz. Et d'ailleurs, on voit encore ça.
Blanco,
il crache sur les arbitres.
Blanco, ouais. Il a eu 2 titres. Il était président pendant 15 ans de la Ligue. Ouais. Donc, il aurait pu en avoir 13.
Et puis, il crache aussi un peu sur les arbitres, en disant qu'il n'y a que 3 ou 4 arbitres qui sont réellement professionnels dans le giron de l'arbitrage.
Il met une couche aussi sur les arbitres de touche.
Pas vu.
Ouais,
pas vu
ça. Ils travaillent pendant la semaine.
Ouais, qu'ils s'éclatent le week-end et qu'en fait ils se rendent pas compte de la portée de leur décision.
Ouais, c'est ça. Sauf que je pense pas que les arbitres touchent des contrats de 1 million 100 ou 1 million 2 d'euros.
Ouais, mais l'année. Il dit que l'argent qu'il a, il l'a parce qu'il travaille.
Oui, mais je pense que.
Je voudrais pas lancer un débat, mais je pense que tu gagnes plus que le SMIC à être arbitre de touche avec le week-end tous les dimanches en top 14. Hein.
Non. Moi, on connaît quelqu'un qui a fait 4e arbitre à Paris. Il bosse, et je crois qu'il ne doit pas gagner des 1000 et des 100 à aller au Stade de France.
Je lui poserai la question à l'ami.
On peut savoir.
On peut l'appeler.
À l'ami Speedy Gonzalez, meilleur marqueur d'essai de l'EAC Rugby.
À qui on a volé 30 essais.
Après, il n'est pas d'accord sur le nombre d'essais, mais c'est le meilleur marqueur. Juste pour donner le classement. Pour vous dire qu'une victoire, ça peut être 5 points. Une défaite, ça peut être 0-1. Un nul, c'est 2 points. Donc, c'est encore... et qu'il y a les 6 premiers qui vont être qualifiés. Les numéros, donc, 3, 4, 5, 6. Sachant que le 8e a 67 points et que le 2e a 74, c'est très compliqué. À part pour Toulouse, 78. Après, on a le Racing, 74. Clermont 72.
Ah mais Clermont peut jouer sa place dans les deux en battant Toulouse. Hein.
Tout à fait. Hein on est d'accord.
Hein
Castres 72, Toulon 70, Biarritz 68, Bayonne 67, Montpellier 67. Donc vous voyez, rien n'est fait. En 1 ou 2 points, il y a quand même pas mal de clubs. Sachant qu'il y a des oppositions assez corsées pour la dernière journée qui aura lieu le week-end 7. Du 7. Il y a USAP, Castres Olympique. Il y a le derby parisien Stade Français Racing.
Ah, c'est pas mal aussi.
Il y a Bourgoin Biarritz Olympique. Donc, on pourrait penser que le BO pourrait aller choper un bonus, peut-être en déplacement. Donc, ce qui les replacerait plutôt pas mal. La Rochelle Bayonne. Moi, je crois au coup d'éclat des Rochelais contre Bayonne pour pourrir les Bayonnais. Agen-Brive, le match des mal classés entre le 11e et le 12e. Montpellier-Toulon. Alors là, je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est pour Montpellier qui a été toujours dans les. Qui a été très longtemps dans les 2 et 3. C'est un peu le match vaincre ou mourir.
Ok, merci.
Et puis enfin...
On est à l'antenne pour de vrai.
Ouais, bonjour auditeurs, auditrices, toujours sur Principe Actif. Et puis le dernier match, c'est celui où le Café des Sports sera présent.
Ouais, bah faudrait qu'on se dépêche.
Qu'on se dépêche. C'est Toulouse-Clermont au Stadium. Match et affaire à suivre très prochainement.
Coupe d'Europe, dis donc. C'est ce week-end.
H-Cup, voilà. Pourquoi il n'y a pas de top 14? C'est qu'il y a la H-Cup. C'est pour ça aussi que l'USAP, à mon avis, a perdu ce week-end. Ils avaient mis au repos toute leur première ligne. Ils avaient mis au repos Marty. Donc, ça faisait beaucoup de joueurs cadres quand même au repos. On rappelle les oppositions?
Oui.
Tous les matchs se déroulent outre Atlantique. Je vous cherche ça.
Il y a Leinster-Toulouse.
Leinster-Toulouse et Northampton-Perpignan. Perpignan, voilà. Donc, je ne sais pas si les matchs, c'est samedi ou dimanche. Je pense les deux.
Alors, Thomas Lombard a fait une déclaration, un de tes amis, c'est ça?
J'ai bossé un peu avec lui.
Thomas Lombard, dans les spécialistes du rugby, annonce qu'il n'y aura pas de club français en finale. Le RB en a décidé ainsi. L'arbitrage sera anti-français. Annoncé, ça compte double, dit-on.
On fait des pronos. Oh non, peut-être pas besoin.
Moi, je vois Toulouse passer, mais. Enfin, non, cela dit, non. Enfin, je sais pas.
Ça va, c'est chaud pour Toulouse. Hein.
Ouais. Au Leinster.
Au Leinster, là, ça va être la guerre. Bon, voilà. Et ben, on ferme la
page. Et Bernardo, t'en penses quoi, toi?
Bernardo?
J'ai été.
T'as pas écouté, d'accord. Et toi?
Non, je suis en pleine négociation de contrat, moi. Là.
D'accord.
Et ben voilà, ben on clôt cette page.
Non, toi, allez, vas-y.
Allez, moi, je vois l'USAP prendre 20 points dans la musette. Ah ouais, ouais, non, je les vois pas du tout au niveau. Et Toulouse.
Toulouse. Pronostic Toulouse vainqueur. Rappelez-moi, c'est sur un match, mec. Hein.
Oui, oui, c'est sec. D'accord. C'est là-bas.
Ouais, mais c'est quand même là-bas.
Moi, je les vois tout perdre de 3-4 points.
Si l'arbitrage.
Je les vois perdre et pas beaucoup pour que ça leur donne bien des regrets.
Les Irlandais sont légèrement tricheurs. Si l'arbitre sanctionne tout de suite.
J'ai pas regardé les.
Le type de jeu du Leinster est basé sur un jeu où ça grignote le ballon devant. Si l'arbitre suit vraiment le règlement, Toulouse a ses chances. Si l'arbitre laisse pourrir les ballons sur les maules, les regroupements, etc.,
mais vous,
ce sera impossible.
Mais quoi. Vous qui vous y connaissez très bien en Ovalie, je comprends pas parce que. Bah, moi je sais déjà que Toulouse va être champion d'Europe, donc comme ils vont déjà être champion d'Europe, forcément ils vont gagner cette demi-finale, les gars. Voilà, c'est tout. Mmh. On va l'emporter.
Affaire à suivre.
Même la finale se jouera à Cardiff, je crois.
Oui,
ouais, donc, moi j'y crois pas. Je crois pas une victoire française. Je crois que le RB, on a un petit peu marqué les clubs français.
L'emporte.
Trust, ouais, des victoires.
Allez, on ferme cette page rugby. Il est 13h passé de quelques minutes.
Faut aller au boulot
sur l'antenne de Principe Actif. Et oui, ceux qui doivent aller au travail, c'est l'heure. On se retrouve après musique. Vous savez bien, c'est la mi-temps. On va ou tu vas t'en griller une et en boire une. Allez, ciao, à tout à l'heure.
Look, I brought these chocolates for you. Hey, where are you?
Hey, look at those crazy animals.
Hey, you speak when you're spoken to. Warned you about those discotheques.
No government has the right to do that.
We'll rock you. We will rock you. That was the state president.
Why are you doing this?
Lot of bloody tobacco smokers, gangsters. That was the state president.
Why are you doing this?
Mr. B.W. Porter.
You don't know that, you're just guessing.
You must possess social skills because you have the sensitive task of inspecting their premises.
No government has the right to do that. No government has the right to do that.
Dance when you're running out of time. Dance.
Eh ben dis donc, ça finit bizarrement ton morceau Gonzalo.
C'était des Sud-Africains, les Kalari Surfers.
Oh, j'adore le nom.
Bah, je crois que c'est le moment, je crois que ça a joué pas mal ce week-end. On va un peu suivre l'évolution des finales NBA avec toi, Damienski.
Les playoffs.
Allez, c'est parti.
Et oui, il y a eu des matchs cette nuit, il y a eu des matchs ce week-end, il y a des matchs tous les jours là depuis un peu plus de 10 jours maintenant. Les résultats de la nuit, le tableau et des infos. Les résultats de la nuit, c'est la victoire de Denver face à Oklahoma. On avait annoncé Oklahoma facile vainqueur, ils mènent effectivement la série 3-1. Ils ont évité le sweep, hein, Denver. Le sweep, c'est lorsque vous prenez, vous ne marquez aucune victoire, en tout cas vous ne remportez aucune rencontre. Et en l'occurrence, donc Oklahoma mène 3-1 dans la série, en sachant que Denver a gagné cette nuit 104-101 avec un meneur pas très connu, Ty Lawson, qui a été au four et au moulin. Et qui a aligné les statistiques intéressantes pour permettre la victoire de son équipe, les Nuggets. Les Spurs, et oui Gonzalo, les Spurs se sont inclinés cette nuit, une fois de plus face à Memphis. Et là c'est grandement une grande surprise, devrais-je dire, puisqu'on avait annoncé dans nos pronostics une facile victoire des Spurs. Et il est vrai que moi je les voyais aller loin dans ces playoffs et que je me fais totalement contredire par les résultats, puisqu'ils sont menés 3-1. Ils se sont inclinés cette nuit 104-86 en plus de 18 points, avec un bon Tony Parker durant la première moitié de la rencontre, un pauvre Tim Duncan qui a compilé 6 points à 7 rebonds, et puis bah, en face un Zach Randolph qui est incroyable, qui est pas loin d'être l'homme de cette opposition, avec aussi un Marc Gasol, le frangin de Pau, qui défend très bien et qui annule le jeu intérieur de San Antonio. Bref, une grosse surprise en devenir.
Oui, alors on peut s'arrêter quelques instants. Trois éléments sur cette série. Tout d'abord, Tony Parker a été blessé légèrement il y a aussi 2 à 3 semaines à l'épaule, ce qui explique un rendement offensif moindre. Il a tourné toute la saison à 42% de réussite. Là, il tutoie les 20-25%. Ça fait mal. Deuxième élément, Memphis est une équipe très haute. C'est-à-dire que Gasol, frère Gasol, il y a 2-15. Zach Randolph, 2-8-2-10 dans la raquette. Et Memphis domine dans la raquette. Domine. C'est-à-dire que
largement.
Gasol fait un gros taf défensif sur Duncan et Zach Randolph prend le dessus sur tous les autres numéro 4 de San Antonio. D'ailleurs, peut-être une erreur de Popovic de ne pas faire jouer Thiago Splitter, le Brésilien de San Antonio. C'est un gars à 2-11, 2-12 qui avait été élu meilleur joueur européen, enfin des championnats européens, la saison passée. Il estime que c'est un rookie, il ne doit pas intervenir sur les phases finales. Bon, peut-être une erreur. Et le troisième élément, c'est Memphis qui détient le rythme des matchs et il joue très doucement. Et ça ne convient pas du tout à l'équipe joueuse
de San Antonio,
qui est devenue San Antonio. Voilà.
Donc il est vrai qu'on part pour une surprise avec peut-être la victoire et le passage de ce tour, de ce premier tour de playoff pour Oklahoma. Et l'autre rencontre de la nuit, c'est Dallas qui s'impose 93-82 face à Portland et qui ne mène la série que 3-2. Hein. Il est vrai qu'on avait imaginé une victoire facile de Dallas. Eh bien, c'est dans la difficulté qu'ils s'imposeront. Peut-être. Voilà,
en match 4, 23 points d'avance à 14 minutes de la fin du match. 23 points d'avance.
Ils sont cirés. Incroyable.
Ils se font cirer de 4 points.
Et on peut juste souligner quand même que Dirk Nowitzki et Jason Terry à eux deux, c'est 45 points. Et qu'en défense, Tyson Chandler, c'est 20 rebonds. Voilà. Concernant le tableau, là aussi, il y a peut-être aussi une autre surprise en devenir. Orlando, que moi-même j'avais vu, petit spécialiste que je suis, que j'avais vu facilement s'imposer face à Atlanta, est complètement chamboulé aussi dans cette opposition, puisque pour l'instant Atlanta mène 3-1 face à Dwight Howard, qui est en fait complètement seul au sein de cet effectif, qui n'a à ses côtés pas de joueur majeur, en tout cas de joueur qui perce durant ces playoffs. Et on a un Dwight Howard qui est au four et au moulin, qui aligne les statistiques colossales, mais son équipe perd. Et en face, par contre, Joe Johnson, ainsi que, comment se nomme-t-il, Jamal Crawford ont élevé leur niveau de jeu et sont en train de carburer.
Alors, il y a une raison à ça. C'était très bien décrypté hier soir par Jacques Monclar sur
Jaco, ouais.
Et qui a expliqué, en fait, le coach d'Atlanta a fait le pari de ne pas trapper, c'est-à-dire de ne pas faire de prise à plusieurs sur Howard et de, au contraire, de défendre sur tous les autres. C'est-à-dire que l'axe Jameer Nelson Howard est libéré par un seul défenseur. Par contre, à côté, sa défense sévère. Ce qui fait que, effectivement, Howard fait tout, mais à côté, il n'y a rien. Et au contraire, de l'autre côté du terrain, Atlanta joue très, très collectivement et très vite également. Et
donc, c'est vrai que bon choix, en l'occurrence, du coach d'Atlanta. Boston, qui par contre, là on l'avait imaginé, s'est imposé à l'aide d'un sweep, hein, donc le fameux 4-0, en sachant que par contre les écarts étaient très faibles, hein, de l'ordre de 2, 3, 5 points maximum lors de ces 4 rencontres, mais ils se sont imposés 4-0 et attendent de retrouver peut-être Miami, hein, qui mène la série 3-1 face à Philadelphia, parce qu'ils menaient 3-0 et Philadelphia l'a remporté sur le game 4, donc Miami
le
mène
match 4.
3-1.
Le voilà. Match 4.
Pardon, le match 4.
Donc ce qui va nous donner un affrontement superbe.
Oui. Entre Boston et Miami.
Ouais, ça va être
Miami qui est plutôt sérieux, hein, dans ses playoffs. C'est-à-dire qu'on y voit d'ailleurs un Chris Bosh qui est plutôt pas mal, alors que c'est peut-être au départ le moins star de ces trois stars que forment Dwayne Wade, LeBron James et Chris Bosh, et Kalin aussi, lui, des bonnes statistiques. On pourrait revenir aussi sur Oklahoma, qui mène 3-1 face à Denver. Alors ça, c'était prévisible aussi. Sauf que Oklahoma, on le rappelle, avait dans ses rangs donc Kevin Durant, bien sûr, entre autres, et Russell Westbrook. Et Denver l'a emporté, là, comme je le disais tout à l'heure, cette nuit, 104 à 101, et évite le sweep, 3-1. Voilà, donc c'est dit. Les Lakers, alors là, important aussi de le souligner, les Lakers.
C'est un peu vite, il y a côté Oklahoma, un superbe Serge Ibaka. Le oui. Congolais volant.
Ouais. Qui meilleur joueur africain de la NBA actuellement.
Qui fait des playoffs de feu. Et pour lui, le trade, enfin les transferts ont été très bons. C'est-à-dire que ça a dégagé Green, mis Perkins en 5, un rock un peu néolithique. C'est-à-dire que pas très technique, mais immense défenseur. Et puis à bouger, c'est impossible. Et lui arrive en 4 à côté et on lui laisse de la place pour voler, courir, sauter partout.
Et puis, donc, je le disais, ouais, les Lakers, bien vu d'être revenus dessus, sont à égalité avec la Nouvelle-Orléans. Alors là, je voyais, moi, les Lakers s'imposer facilement. Et en fait, on a un petit Kobe Bryant, et j'y reviendrai dans les infos, qui est très certainement blessé, qui refuse, en fait, de passer une IRM. Hein. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances qu'il ait la cheville flinguée, mais en fait, il se refuse d'avoir les examens finaux pour savoir si, oui ou non, il serait en mesure de, parce qu'il a envie de jouer les playoffs. Donc, c'est tout à son honneur, sauf qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avoir une blessure avérée, de la soigner, de peut-être permettre à son équipe d'avoir une rotation en moins, mais surtout peut-être pas avoir son aura et son talent, mais peut-être de faire jouer d'autres joueurs. En tout cas, les Lakers qui peinent dans ces playoffs et qui sont à 2-2 face à la Nouvelle-Orléans. À noter quand même que la Nouvelle-Orléans, orphelin de David West, hein, qui sur la fin de saison régulière s'était blessé, était le deuxième joueur majeur de cette équipe-là, pour pas dire le premier ex-aequo avec Chris Paul. J'aime beaucoup ce meneur-là, je vous en avais déjà parlé, qui est un meneur All-Star, hein, depuis quelques saisons. Eh bien, il a fait un énorme match là, justement, pour revenir à 2-2, en signant un triple-double de ouf. Quand je dis bien un triple-double, c'est-à-dire plus de 10 unités dans 3 statistiques, c'est en l'occurrence 27 points, 13 rebonds et 15 passes décisives lors de la dernière rencontre. Chicago, par contre, eux, mènent 3-1 face à Indiana, c'était prévisible. Ils menaient 3-0, Indiana a remporté la dernière rencontre en date. Donc 3-1 pour Chicago, 3-1, voilà.
Ah, pardon, avec des tout petits écarts.
Aussi.
Je vais revenir juste sur un point sur Kobe Bryant qu'on peut détester. C'est assez facile de le détester. C'est quand même un type à 32 ans, il a un instinct de tueur, une envie de gagner. Qui fait la race des champions. Quoi.
Après, c'est un champion.
On peut dire les grands joueurs. Lui, il a un truc en plus, c'est-à-dire qu'il a une fêlure. Un très grand joueur, c'est quelqu'un qui a un pet au casque. Et lui, son truc, c'est gagner, gagner, gagner. Avoir des récompenses, mettre ses pieds là, dans le hall, pas le hall of fame, dans la. Sunset Avenue.
Ah, oui.
Il a foutu ses mains, etc. Donc c'est un mec qui a un pet au casque, mais. Voilà, sur le terrain, il aime ça. Quoi.
Ouais, donc incroyable. Donc effectivement, c'était dans mes petites infos. Kobe Bryant, on ne sait pas ce qu'est son avenir proche du fait de sa blessure affirmée, mais qu'il ne veut pas valider. Et puis, Rodrigue Bobois, qui n'a pas fait un match encore de playoff, c'est ce meneur talentueux, meneur arrière, hein, on pourrait évoquer, de Dallas. Ça n'empêche pas Dallas d'être bien, mais Rodrigue Bobois n'a pas encore joué, s'est blessé au pied gauche dans le dernier match de la saison régulière, et malheureusement il n'avait fait qu'une petite vingtaine de matchs sur la saison. Il n'est même pas sûr, et d'ailleurs c'est même très hypothétique, de le retrouver cet été en équipe de France. On aurait aimé voir Tony Parker et Rodrigue Bobois l'un côté de l'autre, puisqu'il pense qu'il va se remettre tout doucement de sa blessure, et il a besoin, en tout cas il estime et pense avoir besoin de se remettre cet été.
Je crois qu'il n'a pas trop le choix.
Je pense aussi.
Le patron payeur a décidé que...
D'ailleurs, ça lui donne un alibi.
Une chose assez rigolote, Nowitzki, c'est quand même un peu lui qui fait l'équipe. Pendant toute la saison, il a dit « on attend Rodrigue ». Une fois qu'il est revenu, il dit « ah bah ouais, mais là, en ce moment, il n'a pas le niveau, il faut le sortir du 5 ». Et ils ont perdu un ou deux matchs en play-off. Là, il dit « faut qu'il revienne, même s'il a mal, faut qu'il joue ».
Et puis, petite dernière info un peu people, à souligner quand même un joueur de très peu connu hein, des Lakers, un joueur de bout de banc, a malheureusement, suite à la défaite face à la Nouvelle-Orléans, a erré un petit peu dans les rues de LA et du coup a fini complètement éméché sur un boulevard et s'est fait rattraper par la police montée locale et a fini en garde à vue. Alors c'est quand même à souligner parce que c'est extrêmement rare. Alors il y a parfois effectivement des à côté ou des joueurs qui sortent du lot sur des bêtises, mais
illégalois en fait.
Ils sont extrêmement rares.
Il
ces
avait
joueurs.
Piqué une voiture de golf. Au golf.
Voilà qui est dit, voilà qui est fait, c'est bon pour moi.
Petit détail, hein, je te relance. Hier soir, là, sur Canal, il y avait Kevin Serafin qui était invité et je ne le connaissais pas, hormis voir jouer un petit peu.
Et alors ?
Et bah, c'est un gamin qui a du chou et qui a envie de travailler, etc. Et c'était une
Washington
bonne,
Wizard ouais,
bonne surprise. Et, au début, il a été drafté par Chicago, tradé immédiatement à Washington. Il dit pour moi, c'est très bien, une équipe de fond de classement. Ça me fait du temps de jeu. En plus, l'équipe est jeune. Il compte sur moi avec John Wall, Javal, Maggi à l'intérieur. Ah. On a l'avenir pour nous et moi, je vais bosser.
Superbe dunker et joueur volant.
Et un mec assez fin. D'ailleurs, il a analysé sur Boston, prendrait le dessus sur Miami parce qu'ils ont des tueurs de fin de match, ce que n'a pas Miami. Miami qui a les plus pauvres stats de tuage de fin de match. Notamment encore contre Philadelphie, ils étaient à moins 1, moins 2 à la dernière minute et LeBron James a pris son célèbre shoot qui ne rentre pas. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Ray Allen.
En tout cas, affaire à suivre avec des rencontres encore cette nuit. On reviendra bien sûr mardi prochain et on peut entendre les résultats de la nuit dans la matinale.
Eh ben, je crois que la page NBA était grande et large.
Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas piscine aujourd'hui ?
Non, il n'y a pas piscine. Il y a photo.
Il y a plus important.
Il y a photo.
Il y a beaucoup plus important.
Il y a photo.
Bon. Bah.
Félicitations en tout cas. Hein.
Allez, et ben au revoir.
Je crois
Raoul.
Que c'est la première fois que je le dis en plus. Non, moi c'est Bernardo.
Lui c'est Bernardo.
Bernardo, voilà. Aujourd'hui, ouais.
Raoul va être papa.
Hein, le son
sera tout cache. Ciao.
Ciao, allez. Ciao. Ciao. Yeah.
like it or not, like a ball in a chain. All I wanna do is get off.
Eh ben, c'était quoi ?
Dandy Warhol, Get Off.
Je crois que c'est le moment.
Bon alors, la tactique elle est simple. Hein ? On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh Spivak, c'est ce qu'il a dit numéro 10 ? Les Polacks qui leur chiaient sur la gueule.
Bon alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein ? À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ce type vous méprise. Alors, vous avez 45 minutes pour régler vos comptes.
Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec ça.
Et ben voilà, c'était de la poésie. Ben on arrive dans la dernière ligne droite du Café des Sports. On va retrouver nos habituels coups de cœur et coups de gueule. Voilà, ben, je sais pas, qui veut commencer ?
Moi, je veux bien.
Allez, vas-y.
Montpellier. And,
oui,
qui arrive en demi-finale de la compétition européenne.
De la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, et puis voilà, c'est-à-dire que ça tourne. Ils avaient eu un début de parcours assez difficile, dans une... oui, pardon.
Il n'y a pas eu que le match aller, ami Gonzalo. Ils ont été s'imposer à Rennes-Leknes, j'arrive pas à le dire, 29-27... Et il y a le match retour. Oui. Et il semblerait, oui, mais je me permets d'y mettre un bémol parce qu'il semblerait, sur les propos même de Karabatic, que cette équipe allemande est beaucoup plus douée à l'extérieur qu'à domicile. Ils avaient embêté Barcelone autour dans les préliminaires.
Je pense que l'équipe là est taillée pour aller.
Ce serait une bonne nouvelle.
Minimum demi et peut-être même finale. Mais donc voilà, c'est-à-dire que c'est la permanence du hand de haut niveau. Et ce qui est bien par rapport à d'autres sports, que le basket a des joueurs de haut niveau, le football a des joueurs de haut niveau, même si ces derniers temps, collectivement, en France, ça n'a pas fait grand-chose. Mais bon, les clubs français, c'est inexistant. Et le hand, eh bien, le seul sport collectif à avoir une permanence au haut niveau.
Club, puisque club, c'est vrai qu'en plus, ils ont réussi, on l'avait souligné en début de saison, à rapatrier Karabatic, c'était pas rien. Enfin, c'est même la deuxième année, que dis-je. Ça fait du bien.
Non, c'est hyper fort parce que en plus ils font jouer beaucoup de Français. Ils s'appuient pas ou ils s'appuient sur quelques joueurs étrangers, mais c'est vraiment un club de haut niveau qui évolue au plus haut niveau international ou continental pour le coup, avec des joueurs locaux. Et ce qui permet à l'équipe de France après d'être au plus haut niveau aussi. Hein, il y a pas de hasard.
Ils avaient des rotations au moins, hein, des joueurs blessés en
mais
plus.
Avec un grand coach, hein, Patrice Canaillet, un mec qui fait des choses exceptionnelles. Moi je trouve ça. J'ai un deuxième coup de cœur si vous me le permettez.
Je vous en prie.
Allez,
c'est le judo.
Oui.
Teddy Riner qui va bientôt effacer Monsieur UMP des tablettes. Et
vivement.
Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. Non, c'est un monstre qui je crois, pareil, s'il arrive à conserver cette fin de victoire et cette envie de domination d'écrabouiller, là, il gagne en 52 secondes, hein, quand même, sa finale. C'est énorme, quoi. Et puis, derrière, il y a l'équipe de France qui se classe meilleure nation européenne. On sait toujours très bien que les championnats d'Europe, c'est une compétition très relevée. Et voilà, l'équipe de France est là. Une nouvelle fois, je termine sur le sujet, puisqu'on a l'habitude de critiquer les fédérations, et moi le premier. C'est une fédération, le judo, qui a décidé de laisser les clés du camion à des anciens joueurs de haut niveau, athlètes de haut niveau, à des entraîneurs, et qui vient pas faire. Il n'y a pas trop de fédérastes, en fait. Je crois que le rugby ou le basket ou d'autres pourrait faire un peu pareil.
Ouais. Il me semble que dans l'encadrement, il y a un Normand d'ailleurs, un certain Canu, qui est d'Alençon, je crois.
C'est vrai qu'on pourrait souligner la présidence de la Fédération française de handball d'un ancien rugbyman. Enfin bon, je comprends pas tout. C'est un peu comme le jeu des chaises musicales avec les ministres. Oui,
attends,
le président de la Fédération française de handball est un ancien joueur de rugby.
Alors, je savais.
Alors là, pour la fédération de tennis,
ça oui, je savais.
Pour le tennis avec Jean Gachassin qui a été.
On va retrouver. Je me demande si c'est pas Bernard Salle. Là. À vérifier, on a la réponse dans quelques secondes. Hein.
De toute façon, c'est à la limite pour ce type de fédération qu'est le hand, c'est pas si dramatique puisque les clés du camion, elles sont laissées à la DTN.
Sur le sportif, ouais.
C'est Costantini avant et maintenant. Comment s'appelle-t-il
Non, j'allais dire le coach des filles, mince.
Claude
Onesta.
Onesta. Donc, voilà.
J'allais dire Olivier Crambos.
J'ai dit une bêtise. Joël Delplanque.
Ah, ben voilà, merci. Non, mais le président de la Fédération française de tennis est en fait, eh bien, Jean Gachassin, surnommé Peter Pan, quand il jouait ouvreur en équipe de France. Comment dire, Damien, ce qui a-tu un coup de cœur sur l'actualité sportive?
Marseille interdit.
J'allais revenir davantage sur. C'est vrai que moi-même, j'ai tendance à décrier un petit peu l'ambiance qui peut régner parfois au sein des stades ou des supporters de football. Là, en l'occurrence, je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai rejoint des quarts de supporters qui venaient de Metz, qui venaient de Lille, qui venaient de Dax, qui venaient de Tarbes, qui venaient de Toulon. Et j'ai agréablement apprécié l'accueil qui m'a été réservé en tant que Damienski from Normandie, puisque en fait ça passe par deux présentations, un le prénom et deux la région de provenance. Et on m'a ouvert grand le cœur, la parole, mais surtout aussi le frigo et la gentillesse. Et je me suis retrouvé au milieu de jeunes filles plutôt charmantes, aussi bien que de mamie, elle aussi totalement dévouée à la cause de l'Olympique de Marseille. Bref, j'ai passé un agréable moment au milieu d'un cop de supporters marseillais, somme toute très agréable. Après, on a assisté à une piètre rencontre à un petit niveau avec un petit Montpellier qui n'a pas l'habitude de se retrouver en finale, et je trouvais malheureux pour eux qu'ils ne se donnent pas les moyens de l'emporter. C'était 10 derrière, 1 devant. Au-delà de la rencontre, vraiment l'ambiance qui régnait était plutôt très agréable au Stade de France ce samedi passé.
Moi, j'ai un coup de cœur athlétique. Il était venu l'année dernière s'entraîner à Évreux pendant la période estivale, juillet-août. Il y avait eu un petit truc dans les coins-coins locaux. Il était venu accompagné de Valérie Villy, qui est double championne du monde, championne olympique en titre du lancer du poids. Elle est néo-zélandaise et il y avait un petit jeune de 15 ans qui était venu avec elle, Jaco Gilles. Jaco Gilles. Et donc il a 16 ans maintenant. Et ce week-end à Auckland, pour une compétition d'athlétisme, il a lancé le poids de 7 kilos. Donc c'est la catégorie senior qu'il est encore junior. Donc il a 5 ans normalement avant d'être senior. Officiellement, parce que senior, c'est à partir de plus de 23 ans. Avant, ils faisaient les espoirs, mais ils font les mêmes compétitions que les seniors. Et il a lancé le poids à 20m01. Alors, pour vous situer un peu le truc.
Bon, je mets la France senior, ça donnerait quoi ça?
Il serait champion quasiment, où il se tirerait la bourre avec Niaré et Buki, qui sont les deux meilleurs performeurs français, qui ont un record à 20m20.
Ah oui.
Voilà. Et donc il a tapé, donc il a fait 20m01. Donc première chose, c'est le record de Nouvelle-Zélande senior, mais ça constitue un record mondial pour la catégorie des 16, 17, 18 ans au poids. Et il a fait les minima pour les championnats du monde de cet été. Seul problème, quand on est lanceur, on n'a pas le droit de faire des championnats du monde quand on est mineur. Tu as le droit en tant que sprinter, tu as le droit en tant que sauteur, mais pas en tant que lanceur. Donc, il est très, très déçu. Il sera vraisemblablement au JO de 2012 à Londres. On risque de le revoir sur Évreux peut-être cet été. C'est un athlète atypique. Il doit faire 1m90. Allez, 85, 90 kilos. Très, très longiligne, très rapide. Il lance en rotation. Bonne bouille, petit blondinet, vrai gamin. Je sais que Brian O'Driscoll s'était amusé avec lui très longuement l'année dernière au Tour d'Arpa. Ils n'avaient pas arrêté d'embêter Bernadette. Et voilà, c'est vraiment une énorme performance. Et voilà, si vous avez l'occasion, Jacko, c'est J-A-C-K-O et Jill, G-I-2-L. Essayez de choper sur Internet. Il y a des vidéos qui tournent de son lancer. Ça change l'image du lanceur qu'on a l'habitude de voir, les bodybuildés américains avec leur bandeau dans les cheveux qui font 1m30 et 145 kg, qui font 250 kg en développé couché, qui sont chargés comme des mules. Lui, il lance en rotation.
Oh là là.
Et ça va très très vite. Il lance le poids depuis...
T'aimes pas les Américains, toi ?
J'aime pas les... J'aime bien les Américains, c'est pas un problème d'être Américain. J'aime pas les gens qui faussent le sport. Voilà, donc c'était un coup de cœur, vous verrez, ça va hyper vite. C'est une autre façon de lancer. Il a peut-être révolutionné dans sa façon de faire.
Un chatter m'a confirmé dans mes propos, en fait, Philippe Bernard Salle, pardon, est le président de la Ligue nationale de handball, qui est en fait un organisme lié à la fédération. Il reçoit les ordres de la part de la fédération, donc c'est en retrait. Par contre, c'est eux qui gèrent le championnat de division 1 masculine en France et qui organise par exemple le tournoi de Paris. Donc, et en l'occurrence, c'est quand même donc un ancien grand professionnel, parce que Philippe. Grand. Et puis d'ailleurs, ouais, moi je me rappellerai de cet essai de 200 km là.
Grand professionnel, il était en équipe de France.
C'était un fêtard, non ?
C'était en 99. C'était les balbutiements du rugby. Lui, c'était sa fin de carrière quasiment, où il a dû jouer jusqu'en 2004-2005. Je pense qu'il a pas dû mettre des millions de côté derrière lui. C'était un autre rugby, une autre époque.
C'est un peu pour ça qu'il peut faire la bascule vers un autre sport, parce que c'était un joueur d'une autre époque. Je crois qu'il a dû suivre une formation à Limoges, comme d'autres.
Ouais, il y a de grandes chances.
De sport de haut niveau à Limoges, comme d'autres.
Enfin voilà. Et puis bah moi mon coup de cœur c'est.
Tu l'as fait.
Ah pardon.
Bon allez vas-y.
Un second vite fait.
En plus c'est du local.
C'est l'ALM Évreux qui recevra le dimanche 8, c'est la nation.
Non mais ça c'est pas un région. Stop, ça c'est pas un coup de cœur, c'est de l'agenda, on y viendra après.
Bah le coup de cœur c'est qu'il leur reste deux matchs et que s'ils ont gagné ils montent en National 3.
Voilà, allez coup de gueule, est-ce qu'il y a des coups de gueule autour de moi?
Coup de gueule, ouais il y en a un, Dans un article, Johan Cruyff s'était un peu moqué de Mourinho en disant que c'était pas un grand entraîneur, mais c'était un chasseur de titres. Et en France, on commence à dire que la Dèche, Didier Deschamps, est un entraîneur du niveau de Mourinho parce qu'il a fait une finale, il a fait une finale de la Champions League quand même. Il a gagné des titres, il a fait monter Turin en une saison, etc., etc. Le problème, c'est que, comme Mourinho, ses équipes, les équipes de Deschamps, elles sont ennuyeuses à mourir à regarder jouer. Voilà. Voilà. Et, déjà que le championnat français est pas gêne, il y a quelques équipes qui jouent le jeu. On citera Lorient, on citera Lille, voilà. Et Paris de temps en temps. Marseille, c'est un tue-l'amour, quoi. C'est un tue-l'amour. Voilà. C'était mon coup de gueule. Alors, est-ce que, un jour, il faudra se pencher là-dessus, Cruyff raisonnait en termes de spectacle? C'est-à-dire qu'il y a un spectacle complet pour remplir un stade de 100 000 places. C'est la problématique barcelonaise. Hein. Pour remplir un stade de 100 000 places, il faut offrir autre chose qu'un football réaliste. D'ailleurs, je me souviens bien qu'à Chelsea, Abramovich avait viré Mourinho parce qu'il s'emmerdait au stade. Il a dit « Moi, je file 100 millions d'euros chaque saison. J'ai envie de prendre un peu de plaisir. » Bon, alors maintenant, il n'est pas sûr qu'il en prenne autant puisqu'il n'est plus champion. Mais voilà, c'était ma question, mon interrogation.
Juste pour en rebond, mais est-ce que dans 20 ans on se souviendra de la mauvaise qualité du jeu? Je pense pas, on se souviendra des titres et malheureusement
mais on se souvient,
ça s'écrit souvent comme ça.
On se souvient du Barcelone de Cruyff, je pense qu'on se souviendra du Barcelone de Guardiola.
Je pense aussi.
Comme on se souvenait du Juventus de Platoche et Boniek en attaque, comme on se souvient encore du trio magique de Milan, Van Basten, Gullit, Rijkaard, où il y avait un jeu de feu, quoi. Voilà, on se souvient des belles équipes, je crois, non ?
C'est celle qui marque, mais les titres restent de toute façon, quoi, qu'ils l'adviennent. Damianski.
Pas de coup de gueule.
Et toi, ton avis sur la Dèche ?
Je suis très partagé. Hein. C'est vrai que je.
T'as payé combien pour aller au stade ?
Pour aller voir le match,
ouais.
C'est 30 euros.
30 euros. Bah, je sais pas, t'es. Bon,
non, non, mais on s'ennuie. Non, mais on s'ennuie. Non, mais.
Ta passion de l'OM, que je peux comprendre.
Non, non, mais moi, je pense qu'on. C'est pas très beau avoir joué. Il faut y rester objectif, hein. Qu'il a des tickets. Par exemple, il y a un joueur qui a un droit que les autres n'ont pas, c'est Lucho González, qui est pas très performant et qui, malgré tout, est titulaire à chaque rencontre. Du coup, Didier Deschamps est pas forcément celui qui amène la plus belle philosophie de jeu, mais qui amène par contre la victoire, la gagne. Et à Marseille, ça en manquait depuis un moment. Ils ont été champions de France l'année dernière, c'était pas arrivé depuis 17 ans. Je pense que c'est une machine à victoire et un gros mental et qui sait l'inculquer. Maintenant, dans le jeu, c'est vrai qu'il y a encore des choses plus belles à voir, mais c'est la fameuse histoire de est-ce qu'il faut que ce soit beau et que ça amène pas beaucoup de résultats, ou à l'inverse, que ce soit plutôt productif et que ce soit pas joué.
On a un exemple à Évreux.
Ouais.
Moi, je m'y connais pas beaucoup en volley, mais le jeu produit par le VB est beau, c'est-à-dire que pas toujours, hein, quand ça perd, c'est pas toujours bon, mais parfois, comme mercredi dernier, pendant au moins 3-7, c'est un jeu varié. C'est un jeu où t'as pas besoin d'avoir des grandes d'un 1m90 qui te mettent des mines. Il y a de la variété, il y a de la création. Et ça, c'est chouettos, quoi. Jouer à un ancien comme Dumora qui va au gymnase et qui, chaque semaine, dit oh là, c'est quand même super agréable de voir jouer Gaël Molinger parce qu'il te fait une passe arrière, une passe sur le côté, une passe machin truc, qui éclaire le jeu. Elle dit moi, j'ai plaisir à venir voir des joueuses intelligentes comme Drevichuk qui a zéro moyen physique. Et il dit j'ai plaisir à la voir parce qu'elle a du chou, j'ai plaisir à voir Terré parce qu'elle a de la technicité, elle trouve toujours une solution. Voilà, soit ça. Après moi je connais pas grand chose. Le basket, je me souviens de comme d'autres, on se souvient de Claude Williams, on se souviendra peut-être dans 2-3 ans de ce qu'a apporté Philippe da Silva au jeu hébreuxien. Ouais, la variété, la création, tout ça, c'est quand même incroyable, quoi. Enfin,
je crois que les équipes.
Et
sont...
on peut gagner avec ça.
Le
problème, c'est qu'en
pas
France,
toujours.
Alors, je vais continuer, c'est qu'en France, on n'a pas d'attaquant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur capable de valoriser une situation moyenne. Tu fous un ballon moyen à Raoul, 2 fois sur 3, il te fait un but. Ronaldo, Ronaldinho, tous les grands joueurs sur des situations moyennes sont capables de valoriser. En France, si t'es pas tout seul quand même devant la cage. Alors après, on va dire, on a des bons gardiens. Ouais, mais si on regarde bien dans les championnats européens, il y a très peu de gardiens dans les grands clubs. Hein. Très peu de gardiens.
Il n'y en a plus.
Bah, il y a Frey, mais bon, c'est tout. Hein.
Allez, juste pour clore sur les entraîneurs.
Non, pas du tout, je réfléchissais.
Juste pour clore sur les entraîneurs, je crois que Deschamps, il y a l'image de son jeu, hein, tout simplement. Ça a jamais...
Ah, bien vu.
Et voilà. Et qu'à un moment donné, on est les entraîneurs qu'on veut être comme joueurs. Est-ce qu'on a été sur le terrain et qu'on remet ça en place.
Avec José Touré, on aurait rigolé.
Ouais, non, mais voilà. Imagine Francisco Moser.
Carlos.
Carlos, pardon. Le Francisco, c'était un cycliste. non, justement, parce que je pensais cyclisme, parce qu'il y avait un résultat rigolo. Il y a Parkinson qui a gagné une étape de je sais pas quel tour.
Ouais, et cancer est numéro 2. Cancer voilà. Des burnes est numéro 2.
Mais c'est vrai que pour finir, on pourrait vite mettre un parallèle positif pour Didier Deschamps, c'est Claude Puel. C'est vraiment pas, comme le dit le jingle, bandant à avoir joué, et en plus ça amène pas de résultats. Donc vaut mieux un Deschamps avec Sam et la culture Hagen, parce que mine de rien, on peut se rappeler aussi que Marseille a fait trembler Manchester qui caracole en championnat d'Angleterre, qui a pas beau avoir joué, qui est leader du championnat d'Angleterre, qui est qualifié pour les demi-finales, qui va jouer ce soir, et qui mine de rien est vraiment pas très beau avoir joué. Eh ben, Didier Deschamps et sa troupe ont quand même réussi à les faire un peu vibrer et flipper là-bas même, à Old Trafford.
Manchester, faut voir, c'est que ils sont en année de transition, pas mal de jeunes, là, Chicharito, les jumeaux, je sais pas d'où ils viennent, du Paraguay ou du Brésil, ou Brésil. Il y a plein de petits jeunes. Ça y est, Ferguson a déjà trouvé son équipe dans 2 ans, dans 3 ans, et pendant ce temps, ils ont signé Giggs. Et compagnie. Mais
Giggs toujours présent. Bah, ouais. 15 ans à Manchester.
Scholes, ils ont signé 1 an, tout ça, pour préparer la transition. Avec, ils ont trouvé des petites pépites devant quand même. Ouais. Ça va 1000 à l'heure. Ça joue. Voilà.
Allez, on clôt ce Café des Sports avec l'agenda du week-end. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est...
Ça va le faire.
Ça va le faire. Ouais, c'est un autre sport. Celui-ci, t'aurais pu être international.
Nouveau jardin prévu de 13h15 après la sortie de Principatif jusqu'à 2h du mat. Ouais, ouais.
Allez, donc les rencontres, il y a le FC 27 qui reçoit Marc. Donc ça, c'est samedi en direct sur Principe Actif. Marc Ambaraï.
C'est le 10e contre le 15e.
Ouais, super.
Ah, tu nous feras rêver.
Fallait pas rajouter, c'était bien, on avait dit ce qu'il fallait. C'était vendeur jusque-là, et là, t'as tout cassé. N'hésitez pas à retrouver les commentaires de Damienski, l'organe vocal.
Des fois, tu regardes un autre match pour commencer à mettre un peu de folie.
Sinon, bah, après, il y a beaucoup de choses à l'extérieur. Le rugby, ça se déplace. Le VB, ça se déplace. L'ALM, ça se déplace. Il y a des matchs par équipe ci pour le AC Tennis. Donc voilà, allez sur le complexe Jean Moins, sur les magnifiques terres battues, le poumon vert, on va dire, d'Evreux, ce complexe Jean Moins. Allez vous promener, il y aura du tennis par équipe. Et puis bah, il y a de l'athlé en déplacement aussi. Challenge Pouché, on y reviendra.
Le challenge quoi ?
Challenge Pouché. C'est le dernier, la dernière répétition avant la grande compétition annuelle qui est les interclubs. On y reviendra la
J'ai
semaine
trop
prochaine.
Peur, je croyais que tu parlais de Cyril Pouget.
Connais pas.
Voilà.
Donc voilà. Et ben, je crois que c'est tout pour le moment.
On a fait le taf.
Je crois que nous allons clore ce Café des Sports en espérant, comme le disent nos chatteurs,
qui a eu de l'antenne, quoi,
d'être au complet la semaine prochaine, enfin tous réunis pour continuer à parler de sport dans le même état d'esprit.
Pas sûr non plus.
Damienski, au revoir, bonne journée.
Oui, merci messieurs, merci, toujours un plaisir. Merci mesdames et messieurs, dames.
Gonzalo, merci. Bonne journée, au revoir.
Merci patron.
Bah de rien. Puis bah j'ai deux nouvelles, hein, une bonne, une mauvaise. La bonne, c'est qu'il pleut pas, c'est devenu une mauvaise habitude par contre. Les terrains sont durs, la nature s'assèche déjà. Et puis bah la mauvaise par contre c'est qu'on ferme vraiment. Hein. Allez ciao.
Ciao.
Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Essai. Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai.
Chier. Les massues, il faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième
but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Oh là là, chute de Mélanqui juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti. L'Express, le TGV est parti, Shepard. 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.